Pour fêter Saint-Joseph, je vous invite à reprendre la fameuse promesse de Dieu à David, au chapitre 7 du deuxième livre de Samuel. On connaît tous l'histoire, je pense. C'est le moment où David s'est bien implanté dans sa capitale Jérusalem. Des tribus peu à peu s'unissent. Et puis, David a un beau palais, on dit même qu'il a des poutres de cèdre. Cèdre, c'est la solidité, c'est la beauté aussi, c'est l'imputrescibilité. Enfin, tout est bien assis dans la royauté de David. Et il a une idée, c'est de donner une demeure à Dieu comme les autres rois des peuples voisins. Il veut construire un temple pour Dieu. Alors il consulte son aumônier, Nathan, le prophète, et Nathan va l'encourager, « Va et fais tout ce qui te tient à cœur, car le Seigneur est avec toi. » Donc tout se passe bien, et vous vous rappelez qu'il y a une surprise. Pendant la nuit, Dieu vient dire au prophète Nathan, « Moi j'ai jamais habité dans une maison jusqu'à aujourd'hui. J'aimerais qu'on me prévienne. » Enfin, je parle un peu direct. Et n'oublie pas, Nathan, que c'est moi qui prends les initiatives pour le salut. Et donc, Nathan va porter la parole à David. « Non, c'est pas toi qui dois construire là. Tu vas pas même annexer pour en faire une chapelle de ton palais. » Avec le risque de la confusion du politique et du religieux. Mais en même temps, le Seigneur réaffirme son amour pour toi et pour Israël. Car lui veut te construire une maison, il ne veut plus que tu sois ballotté, tiré à hu et à dia, même si apparemment ton royaume est stable. Et c'est vrai que Dieu va te faire une maison et elle va transcender tous les âges. Ce ne sera pas une maison géographique, ce sera une maison verticale, temporelle. Et cet oracle, ce fameux oracle de Nathan, va commander la seconde partie du Premier Testament. Il va être repris sans cesse par Isaïe, Jérémie, Amos, Zacharie, les psaumes bien sûr. C'est l'idée, la promesse, alors que les rois qui vont succéder à David, à part d'eux, vont être des gens pas bien du tout, très peu recommandables. Mais il y a cette promesse que l'alliance va passer par la maison de David. Avec au verset 14, un verset où on se demande ce qu'il vient faire, qu'on va retrouver dans le psaume 2. C'est la formule d'adoption. Je maintiendrai ta descendance, je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils. Cette formule d'adoption, disent les spécialistes, est la première expression du messianisme. Ton trône sera affermi à jamais et on va attendre, puisque les rois qui vont te succéder ne font pas l'affaire, on va attendre enfin celui qui va accomplir cette promesse dont on ne doute pas. Et donc à un moment, non seulement dans la tribu de Juda, mais dans le clan de David, il va y avoir Joseph. Joseph qui va accomplir la phrase de l'adoption. Joseph va même être l'image du Père invisible. Je serai pour lui un père. Il sera pour moi un fils. On s'est souvent demandé pourquoi on n'entend jamais Joseph parler, soit en Matthieu, soit en Luc. On lui dit « Qu'est-ce qui se passe ? Un père qui ne parle pas ?» Eh bien, il représente le père qu'on ne voit pas. Et en même temps, il est si efficace. Il est là dans les moments décisifs. Il prend des décisions. Il fait tout pour que le plan du salut s'accomplisse. C'est pourquoi nous avons une affection. Et peut-être de plus en plus dans l'Église, on aperçoit sa figure discrète et en même temps très présente. Il y a quelque chose qui nous parle du Père. Et comme nous sommes chaque mardi dans la préparation de notre résurrection, on se rappelle que Joseph notamment est le patron de la bonne mort, tout simplement parce qu'il est décédé avec Jésus et Marie à ses côtés. C'est ce que nous souhaitons tous. Un jour, que nos proches et nous-mêmes, nous vivions ce grand passage aux côtés de Jésus et de Marie, à qui on dit si souvent « maintenant et à l'heure de notre mort ». Amen.